Voilà, bonjour à tous, je vous invite encore à prier ensemble. Seigneur, nous sommes reconnaissants de pouvoir être réunis ce matin encore dans la liberté et de pouvoir te louer, t'adorer et méditer maintenant ta parole. Nous te prions pour nos enfants et nos jeunes qui sont descendus afin que, Seigneur, encore tu les bénisses ce matin, que tu parle à leur cœur et dans leur vie, qu'ils puissent toujours plus avoir ce désir de te connaître et de marcher avec toi. Bénis ta parole, bénis la suite de notre rencontre, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, Paul nous a parlé de rencontre, et je vous propose finalement d'aller au cœur de notre rencontre avec Dieu, et de le faire par la prière, en parlant de la prière. La prière, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Bien sûr, nous les chrétiens, nous prions, mais nous ne sommes pas les seuls. Les juifs prient, les musulmans prient, les bouddhistes prient, les chamans se mettent en transe et font des invocations, et il y a même parfois des athées qui se surprennent à adresser des prières à l'altérité suprême. Et puis, la prière, eh bien, on n'a jamais fini d'en parler. Parce que, vous me direz, moi, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je suis chrétien et la prière, bon, je connais, quoi. Ben, en méditant encore sur ce sujet, je me suis aperçu qu'au bout de 30 ans, eh bien, il y avait encore des choses que je devais réfléchir, remettre en cause ou remettre en ordre avec la prière. Donc, on n'a jamais fini. Et je vous invite donc à lire comme texte de base ce matin, un texte que nous connaissons bien, que j'ai choisi de mettre en version français courant. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas. Car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour toujours. Amen. Alors, qu'est-ce que la prière? Eh bien, on peut déjà commencer par dire que la prière, c'est ce qui me permet d'aligner ma volonté sur celle de Dieu. Jésus dira dans sa prière, par exemple, à Gethsémané, avant d'avoir la passion, sa passion, non pas ma volonté, mais ce que tu veux, Père. La prière est donc une occasion de nous décentrer de nous-mêmes pour remettre Dieu au centre de nos vies, au centre de notre cœur. Nous pouvons dire aussi que bien la parole de Dieu, la Bible, nous nourrit. L'Esprit-Saint, lui, nous vivifie. Quant à la prière, elle, eh bien, elle va nous oxygéner. c'est la respiration quelque part de notre âme. Elle est indispensable à notre bonne santé spirituelle. Par la prière, je dirais en image que je rejette du dioxyde de carbone, c'est la noirceur de mon péché, et je reçois ce que Dieu désire me donner et me révéler. Et quand je ne prie pas, ou quand je prie peu, et lorsque la vie fait que j'ai la tête sous l'eau, et ça arrive souvent, eh bien j'étouffe, j'ai du mal à vivre. Alors il me faut prier, comme Jonas dans le ventre du poisson, et alors j'arrive à nouveau à sortir la tête de l'eau et à respirer à nouveau. Jésus, dans ce passage de Matthieu, nous parle des païens qui prient. Alors, une question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la différence entre la prière païenne et la prière chrétienne ? Bien, la prière païenne, c'est souvent un rituel qu'on va faire avec des paroles, avec des gestes. Des fois, on dit aussi que c'est une vibration. C'est quelque chose qui véhicule en soi un pouvoir, une puissance en elle-même. C'est souvent une prière, cette prière-là, cette prière païenne sert souvent à faire descendre sur terre la puissance divine. Et dans la prière païenne, l'important c'est de savoir comment on prie. On va attacher beaucoup d'importance à la pratique, à la technique. On va mettre une certaine foi même dans cette technique. Il va falloir utiliser certains mots bien précis, il va falloir utiliser certains gestes bien précis, une certaine posture. Sinon, ça ne marchera pas. Ainsi, on devient quelque part très légaliste, on devient enfermé dans un carcan de pratique et on oublie le reste. Le but dans tout ça, c'est que Dieu réalise ma volonté, comme le petit génie de la lampe d'Aladin. La prière chrétienne, elle est bien différente. C'est l'expression, et on l'a vécu encore tout à l'heure dans notre moment de prière, c'est l'expression d'une relation, c'est une façon d'être. La prière chrétienne, eh bien, comme on l'a dit, elle exprime ma soumission à Dieu et mon besoin de lui. C'est le moyen par lequel le Père va m'élever à lui. Et l'important, ce n'est pas de savoir comment on prie, mais de savoir qui on prie. On prie Dieu, le Père, notre Père. Et on le fait dans la liberté d'expression. On n'est pas coincé par des pratiques, par des mots, par des gestes, non. On est libre de s'exprimer à Dieu comme on veut. On le fait parce que nous aimons Dieu et que lui nous aime. Et que dans cet amour, nous sommes pleinement libres de nous exprimer à lui. Et nous savons aussi que eh bien, nous sommes au bénéfice de sa grâce. Et qu'ainsi, eh bien, cette liberté, elle est aussi pleine. Le but dans tout ça, eh bien, c'est que je réalise sa volonté. Je voudrais revenir encore deux secondes sur ce premier carré. Dire que la prière chrétienne, c'est une façon de vivre. La prière, c'est une façon d'être et effectivement, il vaut mieux mettre tout son cœur dans la prière pour sans trouver de paroles que de trouver des mots sans y mettre son cœur. Il vaut mieux mettre tout son cœur dans la prière sans trouver de paroles que trouver des mots sans y mettre son cœur. Et puis la prière, donc, ça n'est pas une pratique. Personnellement, je n'aime pas dire faire la prière, mais je préfère dire je suis en prière. Et être en prière, eh bien, c'est construire une relation avec le Père. Et dans une relation, on écoute et on parle, mais il faut bien rappeler qu'en communication, il est important d'écouter deux fois plus que de parler. Et dans la prière, je crois que c'est également le cas. Donc prier ne consiste pas à multiplier des paroles jusqu'à ce que Dieu me dise « Stop, ça suffit, tu as assez parlé, tu m'as saoulé, c'est bon, je vais faire ce que tu me dis, mais arrête de parler. » Non. Il s'agit plutôt de se mettre à son écoute. Et c'est en développant une vie de prière avec le Seigneur que nous allons créer une relation intime, plus profonde avec lui, et que nous apprendrons à mieux le connaître et à mieux nous connaître aussi nous-mêmes. Alors, il y a différentes facettes de la prière que l'on trouve dans la Bible et que l'on utilise souvent dans nos moments de prière qui correspondent à cette phase de la prière. Alors, il y a différentes façons, les théologiens, etc., ont proposé différentes façons d'aborder ce point-là. Moi, je voudrais proposer ce matin celui de Ralph Challis, qui était un évangéliste bien connu du siècle dernier, et qui nous propose cette phase de la prière qui part de souvent un réflexe que l'on a quand on va prier, c'est qu'on part souvent d'une requête que l'on a et qu'on adresse à Dieu, parce qu'on a des problèmes, parce qu'on est dans une situation particulière, et là, spontanément, on va s'adresser à Dieu. Donc, en faisant ça, en faisant connaître mes besoins à Dieu, je lui adresse une requête. Et puis, dans cette situation où je me trouve, eh bien, Dieu va me révéler mon état de péché, peut-être, ou bien mon incrédulité, mon ingratitude, mon indifférence, mon égoïsme, etc. Alors, je lui demande pardon. Pardonner, j'apprends à le remercier pour sa grâce, et alors le centre de mon attention se déplace de moi à lui. Je suis saisi par sa personne, et alors je me donne à lui. Je réalise ainsi que je suis en communion avec Dieu, et j'accueille ses pensées, et enfin je m'implique avec lui et pour les autres. Alors vous me direz, oui, mais pourquoi faut-il prier ? C'est vrai, après tout, pourquoi faut-il prier ? Dieu ne sait-il pas toutes choses ? Dieu aurait-il oublié ses promesses ? Ou aurait-il besoin qu'on lui rappelle ce qu'il a à faire ? N'est-il pas Dieu ? N'est-il pas omniscient, omnipotent ? Non. En fait, le désir de Dieu, c'est de nous faire participer. Et c'est mystérieux. Par exemple, il y a le cas de Daniel, le prophète. Dans le chapitre 9, Daniel intercède avec ferveur pour son peuple qui est déporté à Babylone pour qu'il revienne à Jérusalem. Et Daniel va intercéder avec ferveur, il va demander pardon pour les péchés de son peuple, etc. C'est une prière qui est très très belle et très émouvante que je vous invite à relire. Et en fait, à la fin de cette prière, l'ange Gabriel se présente à lui et il lui dit « Dès que tu as commencé à parler, la parole est sortie de Dieu et je suis venu te l'annoncer. » La prière de Daniel a été longue et elle a été intense, mais il a suffi de quelques mots révélant son cœur et ses motivations pour que Dieu lui parle et se révèle à lui. Ainsi, Dieu attend simplement que nous devenions acteurs, que nous nous impliquions d'une manière ou d'une autre, que nous commencions simplement par quelques mots pour répondre et pour agir. Et Dieu désire agir. Il désire agir dans le monde. Et par la prière, en fait, quelque part, je réalise que je ne peux rien faire de bon pour Dieu. Mais Dieu, lui, ne veut rien faire sans moi. Ce n'est pas lui qui doit s'associer à moi pour parler aux hommes et pour les sauver, non. C'est Dieu qui me propose de participer à son œuvre sur la terre parmi les hommes. Il peut agir sans moi, il est omnipotent, il n'a pas besoin de moi quelque part. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'il désire réellement. La prière nous garde dépendants de Dieu. C'est ce point-là est vital pour nous. Dieu est un Père qui connaît mieux que nous-mêmes nos besoins et avant même nous. Mais il désire que nous les exprimions. Besoin de pain, besoin de ne pas être exposé à la tentation, besoin d'être délivré du mal, etc. Cette dépendance, elle est à rechercher le jour le jour. Donne-nous notre pain quotidien. Et puis nous demandons aussi à Dieu de ne pas être exposé à la tentation, de ne pas nous faire pénétrer dans l'épreuve, dira Chouraki. C'est autre chose que d'être soumis à la tentation, comme on dit souvent. Ne pas être soumis à la tentation, quelque part, ça revient à demander à Dieu de ne pas être cruel avec nous. Et la tentation, en fait, n'est qu'une des formes que peuvent prendre des épreuves qui existent sur cette terre et dans notre vie, en fait. Et puis la prière, pour terminer ce paragraphe, je reviens dessus, elle sert à connaître la volonté de Dieu plus que lui faire connaître la nôtre. Elle ne sert pas à triompher du refus de Dieu, mais à saisir sa volonté. Quelques mots sur les deux premiers versets du Notre Père, que je vous ai traduit ici avec la version Chouraki. C'est une version que j'aime bien de temps en temps utiliser parce qu'elle change, elle nous fait réfléchir un petit peu autrement. Notre Père des ciels, ton nom se consacre, ton royaume vient, ton vouloir se fait comme au ciel, sur la terre aussi. Quand nous prions, eh bien nous manifestons que nous aimons Dieu et que nous aimons aussi les autres et que nous avons le désir de voir Dieu glorifié parce que nous désirons que dans ce monde, pour ceux qui nous entourent, le nom de Dieu soit réhabilité, que son royaume vienne et que sa volonté se fasse. Et ici, dans cette version, nous voyons que ça n'est pas quelque chose que nous espérons, parce qu'en fait, il n'y a pas de « que », comme dans la plupart des versions, mais c'est quelque chose qui est en train de se réaliser, de s'accomplir déjà. Nous ne faisons que dire en fait une évidence que nous reconnaissons par la foi dans la prière. Et on peut faire aussi un parallèle avec nos vies, à condition que ce soit dit avec foi. Le nom de Dieu se consacre dans ma vie, dans nos vies. C'est une consécration active et qui dépend de Dieu. Ce n'est pas tant nous qui le consacrons que lui qui se consacre en nous si nous le laissons faire. Notre cœur laisse Dieu le consacrer de son nom. Et pour cela, nous déclarons par la prière que le royaume de Dieu vient et que sa volonté est en train de se réaliser dans notre vie, dans nos vies. Nous ne sommes pas ainsi hypocrites comme les pharisiens qui priaient pour quelque chose d'objectif, d'extérieur à eux, mais qui ne les impliquait pas personnellement. Non, nous prions pour que ces choses se réalisent aussi en nous. Alors, qui faut-il prier ? Bien, la réponse peut-être paraît simple, mais certains prient les saints, d'autres prient les anges, certains prient les démons. Mais ne nous y trompons pas. Quoi qu'il en soit, le résultat ne sera pas le même. Non, celui que nous prions, c'est notre Père qui est aux cieux. La prière est une communication entre un père et son enfant, et cela n'a rien à voir avec les autres types de prières. Le péché, c'est vrai, nous empêche de rentrer véritablement dans cette communication. Mais le Christ, lui, par son sang, nous le permet. Le Père nous voit désormais au travers du sang du Christ et il nous voit sauvés. Et nous avons désormais un libre accès auprès du Père. Et nous ne devons pas avoir peur ou honte ou bien culpabiliser de nous adresser à Dieu. Non. Grâce à l'œuvre du Christ, nous pouvons nous approcher tels que nous sommes auprès du Père qui nous accueille dans son amour infini. Ainsi, nous prions notre Père qui est aux cieux au nom de Jésus-Christ par son Esprit. C'est ce que la Bible nous enseigne. Elle ne nous parle pas de prières adressées au Saint-Esprit. Il y a des prières qui s'adressent à Jésus, mais en fait, ce sont souvent Paul en 2 Corinthiens qui vient de voir Jésus ou Étienne, par exemple, lors de son martyre, qui vient de le voir également. Alors, quelles sont les conditions maintenant pour prier? Parce que prier, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, en tout cas, pour moi, ce n'est pas toujours facile. Et les obstacles, eh bien, ils sont nombreux, ils ne manquent pas. Déjà, prier, c'est prendre le temps, comme le faisait par exemple Luther, qui s'efforçait de commencer et de finir ses journées par la prière. Prendre le temps de s'arrêter, de se poser, de méditer dans ce quotidien si stressant qui nous absorbe et qui veut évacuer la prière de nos vies. Et si nous sommes engagés dans différents services, si nous sommes particulièrement actifs et notamment dans l'évangélisation ou dans l'action sociale, je voudrais rappeler que, eh bien, il est plus important de parler des hommes à Dieu que de parler de Dieu aux hommes. Il est plus important de parler des hommes à Dieu que de parler de Dieu aux hommes. En fait, nous ne parlerons jamais de façon judicieuse aux hommes pour Dieu si nous n'avons pas d'abord appris à parler à Dieu pour les hommes. Je ne sais pas vous, mais moi, des fois, ça m'arrive aussi de ne pas arriver à me concentrer quand je prie, pour diverses raisons. Dans ces cas-là, commencer par lire la Bible, un psaume notamment, peut nous aider à nous mettre en condition pour prier et nous aider à chasser les pensées qui veulent parasiter notre prière. Certains n'osent pas prier parce qu'ils ont l'impression, en fait, que, eh bien, ils ne ressentent pas la présence de Dieu. Je voudrais rappeler que le plus important, ce n'est pas de sentir si Dieu est là ou pas, mais de savoir que Dieu est là, qu'il nous a garanti sa présence, qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde, et que donc, que nous le sentions ou non, nous pouvons nous adresser à lui sans hésitation, en étant assurés de sa présence et de son écoute. Nous sommes aussi encouragés à prier avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, dit Jésus en Matthieu 21. C'est avec la confiance d'un enfant avec son père qu'il nous faut nous approcher et demander. Oh, il ne s'agit pas de se dire « il faut que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi pour que ça marche ». Non, pas du tout. Demander avec foi n'est pas s'attendre. Demander avec foi n'est pas à s'attendre, oui, à ce que Dieu réponde d'une manière bien précise, mais c'est d'abord se mettre à son écoute afin de comprendre quelle va être sa réponse. Et puis nous sommes encouragés à prier en persévérant. Paul nous y invite, prier sans cesse et en tout temps. Il n'est pas nécessaire de répéter une prière 10 000 fois, ça n'est pas ça la persévérance dont il est question. Dieu nous a entendus. Il ne s'agit pas non plus de prier jusqu'à ce que Dieu cède à force de nous entendre, comme on l'a dit. Non, la persévérance dont il est question ici, elle est surtout liée à la nécessité de rester à l'écoute de Dieu, afin de voir comment il va agir dans telle situation. C'est rester à son écoute et rester souple pour savoir comment évoluer, comment agir, comment nous comporter dans notre vie en fonction de ce que le Seigneur va mettre devant nous. Certains vont me dire, mais je veux bien prier, mais quand j'arrive au moment de prier, je ne sais pas quoi dire. Alors j'ai envie de dire ce matin, eh bien, heureux ceux qui ne savent pas quoi demander dans leur prière quand un sujet se présente à eux. Parce que trop souvent, on est très sûr de nous. On sait ce qu'on va demander à Dieu, on sait ce qui est bon pour nous, et on arrive devant lui, et on a toute une liste, et on va lui dire, ah ben, Seigneur, voilà, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Bon. Heureux ceux qui ne savent pas quoi demander dans leur prière quand un sujet se présente à eux. Parce que, en fait, c'est le début où Dieu peut commencer à se révéler à nous et nous révéler sa volonté et nous permettre de comprendre ce qui est réellement bon pour nous. Heureusement, le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables quand nous sommes dépourvus de mots. Ne l'oublions pas également. Et puis je voudrais rappeler ce verset de Proverbe 28 au verset 9 qui dit « Qui écarte son oreille pour ne pas entendre la loi, sa prière aussi est une abomination. Nous ne pouvons pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Autant nous ne sommes pas appelés, c'est vrai, à être parfaits pour commencer à prier, autant si quelqu'un se détourne volontairement de Dieu, comment peut-il encore le prier et espérer être entendu de lui ? » Quelques questions encore. Comment faut-il prier ? Quand, en tout temps et sans cesse, comme on l'a dit ? Où, en tout lieu ? Dans ta chambre, comme dira Jésus dans le passage de Matthieu, mais aussi au travail, à l'église, chez des amis. On est libre de prier où on veut. Prier aussi seul, dans notre chambre, mais aussi à plusieurs, à deux ou plus, comme dans l'église par exemple. Prier ensemble, c'est s'intéresser à l'autre et c'est chercher à l'aimer. Prier ensemble, c'est aussi se serrer les coudes. Parce que prier, comme on l'a vu, n'est pas dénué d'obstacles et ça redonne force et courage que de prier ensemble. C'est lutter dans l'intercession pour que Dieu agisse dans les cœurs et dans les vies. C'est s'encourager réciproquement à persévérer, à tenir ferme. C'est chercher à être un et s'adresser à Dieu d'une seule voix, d'un seul cœur. Alors, Dieu exaucera nos prières. Quelle posture faut-il adopter ? Faut-il prier à genoux ? Faut-il prier debout, assis, les mains jointes, les mains levées ? J'ai envie de dire, prier en prenant la posture que nous avons spontanément envie de prendre. Si nous sommes dans une détresse extrême, j'ai envie de dire, et que nous avons envie de nous agenouiller, faisons-le. D'ailleurs, si nous, quand nous commençons à prier, nous jetons un œil à notre posture, nous pourrons aussi nous interroger sur notre disponibilité à prier. Si je suis affalé sur mon canapé et que je commence à prier, je peux me poser des questions sur ma réelle disponibilité à prier à ce moment-là. Quel modèle ? Eh bien, nous n'avons pas forcément besoin d'un modèle pour prier. Nous sommes libres de nous adresser à Dieu comme nous le désirons, nous l'avons vu. Mais parfois, nous pouvons être un peu perdus et nous pouvons être amenés à ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. Alors justement, eh bien, le Notre Père, ou bien encore les prières de Jésus dans la Bible, ou bien les psaumes, etc., prier les psaumes par exemple, eh bien tout ça, ça peut être des modèles à suivre qui peuvent nous aider. Enfin, quels accessoires ? Eh bien, souvent, le jeûne est associé à la prière. Alors là, il y aurait encore des choses à dire, mais je m'arrêterai là. Et puis, on trouve aussi dans la Bible, comme accessoire de la prière, la solitude ou la veille. En conclusion, vous me direz, tout ça c'est bien, mais comment savoir si ça marche ? C'est vrai, après tout, aujourd'hui, on est très pratique, hein. On aime bien que les choses qu'on achète, elles marchent, etc. Eh bien, si je commence à m'engager dans la prière, ben, j'aimerais bien savoir si ça marche vraiment, quoi. Eh bien, je rappelle ce verset de Philippiens 4:6. Quand nous sommes inquiets, quand nous avons des besoins, nous pouvons les adresser à Dieu. Même si Dieu n'a pas encore agi, même s'il n'a pas encore répondu, nous pouvons être reconnaissants parce que nous savons qu'il nous entend et qu'il agira selon sa volonté en son temps. Quand nous réalisons cela, alors sa paix viendra s'établir dans nos pensées et dans notre cœur et nous serons sereins face à l'avenir. Et nous verrons vraiment cette paix qui nous inondera et quelque part, c'est un peu comme une paix presque, entre guillemets, surnaturelle, une paix qui, en principe, ne devrait pas arriver, mais qui est là. Et nous voyons la différence, et nous voyons que là, effectivement, la prière, elle marche. Et puis, n'oublions pas que la réponse de Dieu, c'est oui. Son oui final est toujours garanti. Il répond toujours à nos besoins et à ceux des autres pour lesquels nous pouvons prier. Certes, il ne le fait pas toujours comme nous le pensons. Il ne le fait pas toujours au moment où nous le voulons, où nous l'aimerions, mais il répond toujours à nos besoins et parfois aussi même à nos désirs quand ça s'avère possible. Alors, soyons remotivés à prier, que le Seigneur nous encourage dans cette façon de vivre, dans cette façon d'être, que le Seigneur nous bénisse encore dans cette semaine particulièrement pour nous remettre dans ces choses. Prions. Seigneur, merci de nous donner la possibilité de nous exprimer librement à toi. Nous pouvons venir à toi tel que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'artifices, nous n'avons pas besoin de jouer un personnage. De toute façon, tu nous connais parfaitement, pleinement, et nous sommes dans la joie de pouvoir nous présenter tels que nous sommes à toi. Parfois, ça n'est pas toujours glorieux, mais Seigneur, merci parce que tu es un Père compatissant et parce que tu nous accordes toujours ton pardon et ta grâce et tu es toujours prêt à repartir avec nous. Tu connais notre vie de prière, tu connais ma vie de prière. Tu sais les obstacles qui se dressent devant moi et qui m'empêchent parfois d'avoir cette vie de prière. Seigneur, ce matin encore, viens à mon secours si je suis vraiment entravé. Libère-moi de ces obstacles, donne-moi d'avoir une vie renouvelée de prière et de pouvoir ainsi renouveler aussi ma relation avec toi et de pouvoir apprendre toujours mieux à te connaître et à me connaître quelque part, et aussi à intercéder, à prier pour tous ceux qui me sont chers, et pour les hommes en général. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.